We appreciate all the messages of encouragement that so many of you have sent to us these days.
Nous apprécions tous les messages d'encouragement et tant d'entre vous que tous ceux d'entre vous qui nous ont envoyé des messages d'encouragement. Je ne sais pas si vous tous sentez tel que moi je me sens, mais le Seigneur dit dans la Bible, David a dit, tel que la biche soupire pour l'eau, ainsi mon âme soupire pour toi. Et ceci est l'attitude avec laquelle je viens ce matin. Aspirer et désirer entendre la parole de Dieu. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions de ce que nous pouvons venir à toi à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons besoin d'aucun autre intercesseur. Nous pouvons te parler directement. Parce que ton Fils a payé le prix. Ouvre la voie. Il est la porte, la vie et le chemin. Et c'est avec cette joie que nous apportons notre plainte vers toi ce matin ou notre demande vers toi ce matin. Oh, parle-nous, Seigneur, nous te le demandons. Nous avons besoin de toi, que toi tu nous parles. Ô Saint-Esprit de Dieu, ne veux-tu pas parler dans le cœur de chacun la langue que chaque personne peut comprendre? Nous ne pouvons pas atteindre et toucher le cœur des gens, mais rien ne peut t'empêcher d'entrer dans le cœur d'une personne. Oh, parle-nous, Seigneur. Nous demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, juste une courte annonce avant de continuer avec la réunion. Permettez-moi de faire cette annonce. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont conscients des allégations et des accusations qui circulent contre la mission. Et dans la lumière de ceci, nous voulons simplement faire cette annonce. Malgré que nous rejetons les différentes accusations qui ont été données dans les médias contre la mission, nous confirmons notre foi que le Seigneur demande de nous de nous séparer des ténèbres et de marcher dans la lumière. Sous des circonstances très difficiles et un temps très court, nous avons choisi deux juges ou deux avocats indépendant de faire des recherches et de chercher dans toutes ces accusations si cela est vrai ou pas. Donc, nous leur avons demandé de compléter leur investigation le plus rapidement possible. On leur a donné une large opportunité et information afin qu'ils puissent accomplir leur tâche. Et si quelqu'un est intéressé de voir leur cours curriculum vitae, vous pouvez envoyer un email à l'adresse suivante, mail@ksb.org.za. Donc l'adresse email, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'envoyer à mail@ksb.org.za. Les prières pour discernement et sagesse sont bienvenues afin que nous marchions en tout temps dans la lumière et dans la vérité. Et que nous puissions répondre dans l'amour et la vérité et refléter le Seigneur Jésus. Merci.
Tanda namukuthi ngibingelele abazalwane ezindaweni ngezindawo.
Moi aussi, je veux vous saluer, frères et sœurs, peu importe où vous trouvez. Nous remercions Dieu pour des opportunités telles que celle-ci. Dans la vie que nous vivons, dans la manière dont nous marchons, le Seigneur Jésus ne nous a jamais promis que tout ce sera toujours facile. Et il a aussi souligné, en démontrant ce dire à travers sa propre vie, et son exemple. Jean 15, verset 18, dit que si le monde te hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et c'est merveilleux de marcher les voies de Dieu avec le Seigneur. C'est un privilège merveilleux d'obtenir l'opportunité d'expérimenter d'une manière minimale ou petite de ce que notre Seigneur et Sauveur a expérimenté. je me souviens les temps où le Seigneur avait son ministère public et Jésus a dit, ce n'est pas pour de nombreuses années. Mais dans le temps de son ministère, c'était le temps le plus difficile à la fin. Mais son but était toujours que l'Évangile aille de l'avant. Dans le monde, la bonne nouvelle aille de l'avant et atteigne le monde entier ou tout type d'hommes et races. Et en vérité, le message de l'Évangile est allé dans le monde entier, dans tous les coins du monde. Et cela même t'a touché toi, m'a touché moi. Et c'est là où nous avons entendu et expérimenté le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Pense ce que nous serions si ce n'était pas pour le Seigneur Jésus. Si ce n'était pas pour sa main, pour son salut, qui nous a été donné et qui t'a sauvé, toi et moi, où serions-nous aujourd'hui? Si ce n'était pas pour le bras fort de notre Seigneur qui est venu pour nous sauver de notre péché, dans quel état ne serions-nous pas aujourd'hui? Dans quel état ne serait pas le monde aujourd'hui? Et c'est pourquoi j'ai ce chant que j'aimerais mentionner, un chant merveilleux, un chant d'encouragement, un chant qui parle sur la foi. Par la foi, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la main de Dieu dans la lumière de la création qui a été créée. Nous voyons la main de Dieu dans la vie de ceux qui montrent leur fidélité, à travers leur fidélité, ceux qui marchent par la foi et non pas par la vue. Par la foi, cette montagne sera transposée. Par la puissance de l'Évangile et de la croix, nous sommes vainqueurs. Où l'Évangile est vainqueur et continue. Parce que nous savons, en Christ, toutes choses sont possibles. Pour tous ceux qui font appel à lui. Et le refrain dit, nous nous tenons ensemble en tant qu'enfants de la promesse. Nous fixons nos regards sur lui. Jusqu'à ce que la course ait atteinte et que le travail ait fait. Par la foi, nous marcherons. Et non pas par la vue. Et il est bon de penser aux hommes de Dieu qui ont dû expérimenter des difficultés, des défis dans leur vie, et que nous puissions apprendre de cela et voir que sur ce chemin de la foi, les gens ne parleront pas toujours du bien sur toi. Et la parole dit, en fait, que malheur à toi si les gens disent toujours du bien de toi. Et nous trouvons dans la Bible le temps où notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus, a dû faire face à la mort. Et ce n'était juste que quelques jours avant sa fin et avant qu'il meure. Avant d'être crucifié. Et en ce temps, c'était comme si notre Seigneur travaillait nuit et jour, rachetait chaque moment, n'allant pas selon le programme ou un emploi du temps, mais utilisait chaque minute qu'il avait. Tout spécialement les derniers jours, les trois derniers jours, le Seigneur a pratiquement travaillé nuit et jour et son but était de faire sortir le message du salut, d'assurer que tout le monde savait et comprenait ce message. Et il a pris certains de ses disciples, pas tous, il a choisi trois d'entre eux et il a dit « Allons dans la montagne et allons prier ». Ils ont pris Jacques et Jean, qui étaient deux frères. Jacques était l'aîné des deux frères et le troisième était Pierre. Et ainsi, ils ont pris avec lui, pour ainsi dire, pour témoigner cette surprise avant le temps de sa crucifixion, avant le temps de sa mort et de son envelissement. Souvenez-vous, le Seigneur a pris du temps pour prier. Il a toujours pris du temps seul avec son Père céleste. Et ainsi, il a pris ses disciples ensemble avec lui pour aller dans la montagne et prier en étant conscient, entièrement conscient de la crise dans laquelle ils se trouvaient, du temps et de ce qui était devant eux. Jésus avait toujours la compassion pour les gens, et là où il a nourri la multitude, c'était la même chose. Ils étaient avec lui pour quelques jours. Et quand les disciples ont dit qu'il devait être renvoyé, il a dit, n'avons-nous pas quelque chose à leur donner à manger? Et c'est là où ce petit garçon est venu et il a donné son pique-nique que son père et sa mère lui ont donné, 2 poissons et 5 pains. Il l'a donné et le Seigneur a pris cela et l'a multiplié. Et des milliers étaient nourris et étaient satisfaits et rassasiés. Et c'est de ce type de travail que ses disciples venaient. Ils étaient fatigués, ils étaient exaucés, ils étaient préoccupés avec ce type de travail pendant 3 jours. Et quand ils sont allés avec Jésus dans la montagne, ils ont vu la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur a dit, vous verrez la gloire de Dieu, il ne l'a pas simplement dit dans le monde après, dans l'éternité. Pour lui, c'était même ici sur la terre. Et quand ils sont allés avec le Seigneur, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés et ils étaient endormi. Mais Jésus ne les a pas critiqués, mais il a continué et un peu plus loin. Et là, il a fait ce que Dieu l'a appelé. Il a lutté devant Dieu dans la prière en criant à Dieu dans son esprit. Il était angoissé dans son esprit. Cela nous donne un exemple que dans des temps de tribulation, dans des temps de difficultés, nous devons aller sur la montagne. Mais sais-tu, les difficultés nous font cette faveur et cela nous rapproche plus près de Dieu. C'est un bon rappel que nous ne pouvons pas reposer sur nos propres forces, sur notre intelligence, mais nous dépendons entièrement de lui et nos regards doivent être fixés sur lui. Et spirituellement parlant, nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel. Nous devons venir sur la montagne, aller sur la montagne où Jésus peut se glorifier. Et ainsi, nous avons besoin d'être réveillés de notre sommeil, de notre trou et dire, Seigneur, glorifie-toi et glorifie-toi dans ma vie. à travers la souffrance, difficulté, Jésus nous appelle de venir, de sortir de nos vallées, de sortir de ces lieux où nous sommes peut-être dans un lieu où cela est bas, et nous devons venir dans les lieux élevés, sur la montagne où Dieu peut se glorifier. Et là, dans ce lieu, dans ce temps, Jésus était transformé devant leurs yeux. Il a été transformé et la gloire de Dieu était visible en lui. Et là, son visage a transformé, son vêtement a transformé, la radiance ou la gloire de Dieu était visible en lui. Et dans ce temps, deux hommes sont venus et ils lui ont parlé. Ces deux hommes étaient des hommes qui étaient morts longtemps déjà. Ils sont venus et l'ont encouragé. Et les disciples, quand cela est arrivé, ils se sont réveillés de leur sommeil, de leur somnolence, et ils ont vu ce côté radieux. Vous pouvez imaginer comment ils ont dû réagir, et comment cela est quand tu te réveilles et tu es rempli de sommeil, tu parles même comme quelqu'un qui dort encore et rêve. Et Pierre s'est réveillé, il a vu cela, et il a parlé comme quelqu'un qui ne parlait pas avec tous ses sens. Il a dit, Seigneur, est-ce que nous devons construire 3 huttes ou 3 tabernacles pour toi? Jésus ne l'a pas critiqué, et c'est visible que Pierre était encore endormi, il parlait comme quelqu'un qui venait de se réveiller de son sommeil. Mais ils ont vu la gloire de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu quelque chose d'étonnant qui n'a jamais été témoigné auparavant. Et dans ce moment, là, sur la montagne, c'est comme si le ciel est descendu vers eux. Quand Jésus a prié, le ciel était bouleversé et la réponse est descendue. Le ciel s'est ouvert et ils sont venus pour encourager le Fils de Dieu pour le temps de tribulation qui se trouvait devant lui. Et ces quelques hommes qui avaient ce privilège de monter sur cette montagne avec le Seigneur Jésus, ils ont vu cette chose étonnante, ils ont vu cette gloire. ils ont vu Jésus transformé et glorifié devant leurs yeux. Après cela, une nuée est venue et les a couverts. Oh, cela était une expérience étonnante. Quelle expérience divine qu'ils avaient dans leur vie. Puis une voix est descendue du ciel. « Ceci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi. Ici, entendez-le, écoutez-le. » « Ceci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi. Obéissez-lui. » Et même si tu n'as pas d'oreilles pour entendre ou si tes oreilles sont bloquées, ou si tes oreilles sont empêchées d'entendre, écoutez maintenant la voix de celui qui parle, qui est mon Fils. Et il est si important d'obéir à Dieu. Si toi, tu n'as jamais appris à obéir, prenons l'exemple obéir à tes parents. Comment peux-tu obéir à Dieu? Si, en tant qu'enfant, tu n'as jamais appris à te soumettre à tes parents et respecter, les obéir, est-ce que tu penses que quand Dieu veut te parler, tu seras capable de l'entendre? Il est important pour nous d'apprendre à obéir et même avoir une oreille pour entendre ce que quelqu'un d'autre dit. Ceci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi. Écoutez-le. Et ces paroles et cette expérience étaient pour encourager le Seigneur Jésus pour ce temps difficile qui se trouvait devant lui et qui allait venir. Quelles paroles merveilleuses cela ne sont-ils? Ceci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. L'Afrique du Sud, le monde entier, écoutez-le, celui que Dieu a choisi. Il est si important que tu l'entendes et que tu entends ce qu'il a besoin de, ce qu'il a à te dire. Si nous ne l'écoutons pas, si nous n'entendons pas, si nous n'obéissons pas, que va-t-il nous arriver? Nous périssons. Mais si nous lui obéissons, ses paroles apportent la vie et contiennent la vie. Lui-même est rempli de vie et celui qui le rencontre, rencontre la vie et reçoit la vie. Ne nous vous disons pas quelque chose qui est une histoire fabriquée, quelque chose qui a été fait. Nous vous parlons d'expériences personnelles, de ce que nous avons expérimenté nous-mêmes dans nos propres vies et ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans notre vie. Nous avons entendu la parole de Dieu prêcher, cette parole a transpercé nos cœurs, nous sommes venus à Christ, nous sommes venus dans la repentance, nous sommes repentis de notre péché et il a transformé notre vie. Toutes ces années, nous n'avons qu'expérimenté la bonté du Seigneur, son amour, sa miséricorde dans notre vie, nous transformer, nous soutenir et nous sauver. Et nous avons vu la vie des gens transformée radicalement devant nos yeux, des drogués, des alcooliques, où cette personne a rencontré Christ, où ils étaient transformés et toute leur vieille vie était transformée, le vieux est changé et leur vie a apporté gloire à Dieu. Et à travers des années, nous avons vu des centaines, des milliers de personnes qui sont venues à la mission dans la vie de tous les jours, dans la semaine, pendant des années. Et chaque jour, des nouvelles personnes venaient, d'autres personnes, des gens quittaient, des gens venir. Est-ce que toi, tu appelles cela une secte? Nous voyons des jeunes gens, leur vie renouvelée. Nous avons vu beaucoup de personnes où la société les a rejetées, leur propre famille les ont rejetées à cause de leur vie, à cause de la vie terrible qu'ils ont vécue. Mais ils ont été restaurés avec leur famille et la communauté de laquelle ils venaient. Quand une gloire est descendue là et une voix est venue a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. » Il y en a beaucoup qui ont entendu cette voix et l'ont entendue. Et je ne pense pas que quiconque qui ouvre son cœur à Christ le regrette aujourd'hui quand ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie, les a transformés, les a changés et qu'ils étaient restaurés avec leur famille et leur communauté. Ami, si toi, as-tu vu la gloire de Dieu? Est-ce que tu as vu Jésus? Le Fils de Dieu. Si tu ne l'as pas entendu, qu'est-ce qui te retient de venir et expérimenter cette grâce? Et si tu ne l'as pas entendu, cette invitation est pour toi aujourd'hui. Tu peux venir aujourd'hui, tu peux expérimenter sa miséricorde et son amour aujourd'hui, son pardon, sa délivrance, et en transformant ta vie et te sauver de la destruction. et Jean plus tard a témoigné de ce qu'il a vu avec ses yeux. Ce jour particulier, quand il était pris par surprise avec le Seigneur Jésus sur la montagne et où ce qu'il a expérimenté ce jour. Et Jacques, il était l'un des disciples qui était un martyr plus tôt dans la vie. Et de l'autre côté, Jean a vécu plus longtemps et lui aussi était capable d'expérimenter ce qu'il a expérimenté, ces révélations célestes, ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse sur Patmos. Et il dit, il était le disciple bien-aimé du Seigneur, celui qui était couché sur la poitrine de Jésus, parce qu'à cette époque, il était encore très jeune. Avec leurs propres yeux, ils ont vu, ils ont témoigné que Jésus n'est pas comme une autre personne. Ils ont vu sa gloire, la gloire du seul, du Fils unique. Jean dit aussi dans son évangile où Jésus a dit, nous le lisons dans Jean 15, « Je suis la vigne, je suis le cep, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il est dit aussi, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure acheté au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Il y a différentes vignes que vous trouvez, mais Jésus dit, « Je suis le vrai, je suis le cep. » Je suis le vrai cep. Jésus se présente ou s'introduit comme le vrai cep et que celui qui vient à lui ne peut pas être le même. Un vigneron ou celui qui a des vignes, il attend du fruit. Et c'est pour cela qu'il travaille et il coupe et il attend du fruit. Et il veille sur ses vignes et regarde s'il y a quelque chose ou un facteur qui fait qu'il n'ait aucune récolte. Puis il répond de la même manière et il fait ce qu'il a besoin de faire afin d'obtenir la meilleure récolte. Et Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ces paroles ont été écrites par quelqu'un qui a vécu très proche de Jésus, qui a marché avec Jésus, et il a inscrit, noté ces paroles, que ce qu'il doit faire quand les gens viennent, que quand quelqu'un marche avec Dieu, ce que Jésus va continuer à faire. Et ainsi, cela veut dire si tu viens à Christ et il fait son travail en toi, il te transforme, il te change de plus en plus en son image. Quand Jésus vient dans ta vie, il travaille avec le péché, il éradique le péché, la haine, la rancune, l'amertume, le non-pardon. Avec tout cela, il travaille dans ta vie afin que tu sois capable de pardonner au prochain. Cela ne aide à personne de continuer à marcher avec un fardeau de péché. Cela ne fait que te détruire. La manière dont tu es dépressé et découragé, cela ne fait que te décourager davantage si tu portes ton fardeau. Mais le Seigneur nous invite, l'Évangile nous invite à venir au Seigneur Jésus-Christ, à porter notre péché à lui, de le déposer devant lui afin qu'il puisse enlever ce fardeau de péché et nous rendre libres. Une personne qui marche avec de l'amertume, qui a de l'amertume, n'est que détruit par ce poison de leur propre amertume. Peu importe ce qui arrive, cette amertume reste en lui. Et peut-être ils pensent qu'ils seront contents une fois que cette personne qui a causé l'amertume est morte. Après, ils seront heureux. Cette racine d'amertume que nous lisons dans la lettre de Hébreux est un poison, à quelque chose de très amer. Mes amis, moi je veux vous inviter, venez à notre Seigneur Jésus-Christ avec ton amertume. Il peut apporter la guérison, il peut te pardonner, il peut l'enlever afin que tu obtiennes la paix dans ton cœur. Le Seigneur dit, tout sarment qui est en moi et qui reste en moi portera encore davantage de fruits. Mais si une personne n'est pas en lui, cette personne ne porte pas de fruits et il retranche. et finalement s'ébranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, finalement il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Quel type de branche es-tu? Es-tu une branche connectée au Seigneur Jésus? Mais selon le Seigneur Jésus, c'est absolument important. Cela ne peut pas être différent qu'une branche qui reste en lui porte beaucoup de fruits. S'il y a une branche qui ne porte pas de fruits, cela sera retranché, elle va dessécher, jetée dans le feu et elle va être brûlée. Mais chaque branche en Jésus qui porte du fruit, il viendra avec ses ciseaux, son sécateur, et il va couper. Cela peut être difficile. Cela peut être douloureux, mais il coupe afin que tu puisses porter davantage de fruits. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est lui qui travaille dans sa vigne. Il est celui qui travaille durement. Il est le Père qui peut venir, qui a discernement et dit ceci est bon, ceci n'est pas bon. Il est le fermier le plus expertisé et il sait exactement ce qu'il doit faire dans sa vigne afin d'avoir du succès. Mais s'il fait son travail, couper, retrancher, et parfois, cela peut être difficile, cela peut être douloureux. C'est ainsi dans la vie d'une personne. La discipline n'est jamais quelque chose de plaisant. Mais si cette discipline t'est donnée et appliquée avec une attitude céleste et tu l'acceptes avec une attitude céleste, alors cela apporte la vie. Et puis quand tu sors, il y a de l'amour dans ton cœur à l'égard de cette personne qui t'a discipliné et tu sais que cela était pour ton bien et il n'y a rien que tu gardes contre cette personne. Et quand la personne vient avec son sécateur et il commence à couper des choses dans ta vie et ces choses sont coupées. Ce n'est pas fait avec une mauvaise intention, ce n'est pas pour te faire mal, mais le résultat est du fruit, encore davantage de fruits. Et quand Dieu fait ce travail dans nos cœurs, ne endurcissons pas nos cœurs, ne rébellons pas contre Dieu, mais soumettons-nous à lui, parce qu'à la fin, cela apporte du bon fruit. Si tu te soumets, cela va faire de toi un homme tu seras capable de te lever sur tes pieds, tu seras capable de vivre pour Dieu, mais si tu n'es pas prêt et tu te retires, tu suis ton chemin et tu verras le fruit d'une telle vie. Une telle vie ne vient à rien. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. Peut travailler et faire ce que tu veux, peux faire jusqu'à ce que tu sois bleu dans ton visage. Tu peux travailler nuit et jour. Tu peux transpirer, tu peux faire tout. Mais si Jésus n'est pas avec toi ou si Jésus n'est pas en cela, cela ne te sert à rien, car la parole nous le dit dans le verset 5 de Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus fait appel à ce que nous ayons la vraie communion avec lui, car sans sa communion, sa vraie communion, nous venons à rien. Il veut que nous sachions qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avant, que nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous le faisons sans Christ. Mais si nous restons en lui, si nous demeurons en lui, peu importe ce qui vient, peu importe ce qui arrive, tu verras le fruit. Regardons Jésus. Quel type de personne est-il qui nous invite à venir à lui, à demeurer en lui, de donner notre vie et nous soumettre à lui? Quel type de personne est-il? Il n'y a pas de vie chemin pour la vie, c'est à travers lui. C'est pourquoi le Père dit, c'est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. Il nous appelle à lui, il nous invite, il nous appelle afin que nous demeurions en lui. Et qu'il nous apporte la vie, il nous donne la vie. Ça, c'est ce qu'il nous dit dans la parole. Il t'appelle. Son appel veut dire que tu dois prendre ta croix, tu dois mourir à ton moi, à ta volonté, à ta manière de faire les choses et lui obéir et faire tel qu'il te dit de faire. Cette branche ne peut pas être indépendante et penser qu'elle peut atteindre quelque chose. Elle doit demeurer dans le sarment et avoir ce sarment et cette vie qui sort du sarment. S'il n'est pas attaché au sarment, il ne peut rien faire. Il n'y a aucune croissance à moins qu'il y a des racines. Nous pouvons peut-être mettre quelque chose comme une décoration tu penses, oh, cela est beau, mais cela ne va pas rester longtemps. Quand le soleil sort, que la chaleur est sur lui, cela va flétrir et va disparaître, à moins qu'il y ait des racines où cette plante est. Et là où est cette plante, si elle n'a pas de racines, elle ne va pas grandir et croire. Parfois, tu dois creuser profondément afin que ses racines aillent en profondeur. Et tu dis, oh, cela est une difficile. Tu fais cela à cause du fruit que tu verras plus tard. Ce qui en résulte, si tu plantes en profondeur, afin que les racines puissent aller en profondeur. Et Jésus dit, habite, demeure en moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Demeure en moi. Tout ce qui peut en sortir n'est que, et s'il y a du fruit, ce n'est que là si tu demeures en moi. S'il demeure attaché au cep, tu n'expérimenteras jamais la vie de Christ et le salut à moins que tu sois prêt à te soumettre, à moins que tu sois prêt à te soumettre à la volonté de Dieu. Et tu n'expérimenteras jamais la vie en Christ à moins que tu expérimentes mourir avec Christ. Ce n'est que si tu meurs avec Christ, tu peux être ressuscité avec Christ dans une nouvelle vie. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Chaque branche n'a pas le même résultat. Il y a un lieu où tu verras une différence. Celui, il y en a un qui se soumet au principal qui apporte la vie et la croissance et qui permet aux racines d'aller en profondeur. La branche le sarment qui est attaché au cep, tu verras le bon fruit, mais si tu vois l'autre branche qui essaye de prendre des raccourcis, qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas obéir, tu verras le résultat de cette branche. Attends, comme l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église doit s'examiner. Regardez à ta propre vie, comment sont tes racines? Est-ce que tes racines sont allées en profondeur? Ces racines ensevelies dans le message du salut et dans l'amour. Es-tu enraciné en Christ? Ou est-ce que tes racines sont superficielles? Si elles sont un petit courant d'air ou un vent chaud va dessécher ta vie et tu vas mourir, spirituellement parlant. Mais si tes racines sont allées en profondeur, près des courants d'eau, et une sécheresse peut venir le long de ta route, une tornade ou une grosse tempête peut venir, mais tu vas être enseveli et tu vas rester ferme parce que tes racines sont en profondeur. Mais si tu n'as pas été enraciné, un vent va venir, tu vas être déraciné. Tu vas être déraciné deux fois et tu ne porteras aucun fruit et tu vas devenir un ennemi de l'Évangile. Et ce serait sage si quiconque entend quelque chose, qu'ils entendent les deux côtés de l'histoire, ne soient pas rapides à faire ton jugement. Tu seras montré comme un insensé. Si tu prends un côté, tu as besoin d'écouter les deux côtés. Et après cela, tu peux faire un jugement équilibré et voir où se trouve le problème. Et tu verras un arbre, il semble être en bonne santé, vert, mais d'un coup, tu verras que ce d'arbre commence à flétrir. Qu'arrive-t-il? Parce qu'il y avait un courant sec, un vent sec. En fait, il n'avait pas de racines. Puis tu réalises, il n'avait pas de racines, c'est pourquoi il flétrit et meurt spirituellement. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Que peux-tu faire sans Christ? Qu'y a-t-il au ciel, de toute manière, que nous ne pouvons jamais obtenir, à moins que Christ intervienne? À moins que Christ travaille dans nos vies, comment voulons-vous nous? Il y a le temps de dormir est passé. Si toi tu es endormi, réveille-toi. Si tu es fatigué, réveille-toi. Tu t'es habitué à des choses. Ton oreille devrait être ouverte et devrait écouter si prudemment et tu devrais dire, Seigneur, en cela, dans cela, que me dis-tu? Dans cette décision, Seigneur, que dois-je faire? Et si tu as une oreille aiguisée, et si tes racines vont en profondeur, tu seras capable de prendre la bonne décision. Pierre et les autres ont dû se réveiller, et d'un coup, ils ont vu la gloire de Dieu. La gloire du Fils de Dieu qui se trouvait devant eux. Est-ce que tu désires voir cette gloire? Ne veux-tu pas aller au ciel et voir le salut merveilleux que le Seigneur Jésus a pour nous? maintenant qu'ils étaient ici sur terre, le rideau céleste a été retiré un petit peu. Ils ont expérimenté la gloire céleste pendant qu'ils étaient ici sur la terre. Et ils ont vu quelque chose de merveilleux que personne d'autre n'ont pas vu. Savez-vous pourquoi Jésus a choisi ses trois disciples en particulier quand il était crucifié? Il leur a fait confiance. Et il leur a fait confiance. Il savait que ce qu'il leur confie, ils ne vont pas le laisser sortir ou ils ne vont pas en parler avant le temps. Et Jésus leur a dit, ne dites rien à quiconque, mais ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Cela n'était pas encore le bon temps. Ils étaient fidèles en cela. Ils se sont tus jusqu'à ce qu'au temps choisi de Dieu et que Dieu leur a dit d'en parler. Qu'est-ce que toi, tu en aurais fait? Qu'est-ce que moi, j'aurais fait? Béni est celui qui peut mettre des rênes et contrôler sa langue, parler au bon temps et non pas avant le temps donné par Dieu. Ils ne se taisaient pas parce qu'ils essayaient de couvrir quelque chose, mais ils écoutaient ce que Jésus leur disait. Jésus a dit, ne parlez à personne de cette vision. Le temps va venir où vous devez en parler. Et ainsi, ils se sont tus, ils étaient fidèles et au bon moment, le temps donné par Dieu, ils en ont parlé. Imaginez Pierre, nous savons quel type de caractère Pierre était. Pierre était connu comme quelqu'un qui pouvait être très impulsif. Et il parlait rapidement de lui-même et au nom des autres disciples. Mais ici, quand Jésus a dit « ne parlez à personne jusqu'au bon temps », il était obéissant, il était fidèle et il n'en a pas parlé avant le temps. Il était fidèle en étant capable de garder ce que nous pouvons dire étaient les secrets de Dieu qui n'étaient pas à être révélés avant le temps, avant son temps. Il y avait une raison pourquoi il n'était pas supposé en parler avant le temps et peut-être une des raisons est peut-être que certains allaient venir et argumenter avec eux. De toute manière, il y aura toujours ceux qui divisent les choses ou qui disent, qui analysent les choses et disent « ça ne peut pas être ainsi, c'est comme ça et c'est comme ça ». Mais quand ils ont parlé, il n'y avait personne qui était capable d'aller contrer leur témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu de leurs propres yeux et de leurs propres oreilles. personne ne peut renier ton propre témoignage de toi-même parce que tu sais ce que tu as expérimenté. Moi, je sais ce que j'ai expérimenté. Moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Et si tu ne veux pas le croire, ceci est ton cas. Et toi, tu dois le porter, mais cela ne change rien avec moi et ma vie. Personne ne sera capable de me convaincre. C'était ma propre expérience. Souvenez-vous de Moïse dans le désert, le mont Sinaï. Moïse avait communion avec Dieu. Mais le temps est venu où Moïse avait le désir et il a dit, « Oh Dieu, je veux voir qui tu es. » Et Dieu a dit, « Moïse, toi, tu ne sais pas ce que tu demandes. Personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir mon visage et vivre, ma face. » Et souvenez-vous, souvenez-vous, quand Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, les 2 tablettes de pierre, et la gloire de Dieu reflétait sur son visage, c'était si les gens ne pouvaient pas le regarder. Imaginez, si c'était ainsi avec Moïse, combien glorieux est celui qui est vérité, qui en vérité est glorieux. Parce que sa gloire ne faisait que refléter sur le visage de Moïse. Oh, comment est celui qui est la source de la gloire? Et ainsi Dieu a dit à Moïse, « Moïse, je ne te montre pas ma face, mais tu verras mon dos. Va dans la montagne. » Et je vais passer, et une fois que je passe, tu me verras de mon dos. Et Moïse a fait cela, et quand Dieu a passé, Moïse avait juste un coup d'œil sur la gloire de Dieu. Il a dit, cela est suffisant. Imagine comment est la gloire de Dieu si c'est ainsi quand tu le vois de son dos, quand tu vois la gloire depuis son dos. Moïse ne l'a vu que de dos. Donc ceci est le temps d'être un avec Dieu afin que Dieu puisse montrer sa gloire et révéler sa gloire dans le bon temps, au bon moment. Ceci est un temps où nous devons nous sanctifier devant Dieu et dire, « Oh Dieu, viens et travaille dans ma vie, sanctifie-moi entièrement. » Seigneur, ici je me trouve, je suis ton serviteur. Montre-moi ta puissance, montre-moi ta gloire. Seigneur, nous ne désirons rien d'autre mais de voir ta gloire, expérimenter ta grâce, rien d'autre. Nous avons besoin d'être unis avec Dieu. Nous avons besoin d'être un les uns avec les autres afin que Dieu, à travers sa grâce, puisse révéler sa gloire. Enlève ce péché qui te sépare de Dieu, qu'il n'y ait rien dans ta vie qui puisse empêcher Dieu et l'arrêter de faire ce qu'il veut faire. Dieu ne peut jamais montrer sa gloire s'il y a tout type de travail, d'œuvre d'iniquité, d'injustice, rancune, amertume, haine, toutes sortes de choses qui doit être que tu dois sortir de ta vie afin que Dieu puisse montrer sa gloire. Nous avons besoin de demeurer en Jésus et Jésus a besoin de demeurer en nous afin que nous puissions le voir. Et cet amour de Dieu sortira de nos cœurs et nous aurons les forces de Dieu afin que nous puissions aller de l'avant et propager son évangile. Si toi tu demeures en moi et moi en toi, alors ceci arrivera. Mais cela n'arrivera pas à moins que nous nous séparons de toute iniquité. Ami, si Dieu t'a parlé à travers son Saint-Esprit, obéis. Peu importe ce que le prix va être pour toi. Vis devant Dieu. Ne tombe pas dans le piège de vivre devant Dieu, qu'il t'embrasse ou qu'il te donne des coups de pied. Vis devant Dieu. Réalise qu'un jour, toi et moi devons nous tenir devant le grand trône de Dieu. Dont son omniprésence, ses yeux peuvent voir ou aucun homme ne peut voir. Même dans ton cœur où aucun autre homme ne peut voir les secrets les plus profonds et les motifs de ton cœur. Et toutes ces choses que nous avons entendues vont venir. La vérité va être visible. Que ce soit durant ta conversion, si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu et qu'il t'a convaincu de ton péché aujourd'hui, ou comme nous avons entendu, durant le procédé de la sanctification, comme il travaille avec ton âme après ta conversion. Laissez-moi vous donner cet exemple. Celui qui a prêché, je suis donné tenter de donner son témoignage, mais pour vous montrer ce que ça signifie que de vivre devant Dieu. Avant que j'ai rencontré Dieu, il était inclus dans une dispute. Peut-être j'ai des petits détails faux. Et dans le procédé une nuit, sous l'influence, il a lutté avec quelqu'un, il s'est disputé avec quelqu'un et il a poignardé. Donc c'est un petit témoignage de celui qui a prêché. Et la personne est morte. Le lendemain, les gens sont venus et lui ont dit, « Est-ce que tu sais que l'homme est mort avec qui tu t'es disputé ?» Visiblement, normalement, donc il était mis en prison. Et Dieu lui a parlé. Il a rencontré Dieu. Et Dieu l'a convaincu du grand mal qu'il a commis. Et Dieu l'a convaincu de parler la vérité de ce qu'il a fait et comment cela est arrivé. Et pas de chercher et de trouver tout type d'excuses et dire toutes sortes de mensonges pour couvrir le mal qu'il a fait. Ceci est ce qui est arrivé. Quand tout l'œil de Dieu qui voit tout et voit ce qu'il te révèle, ce que tu as fait. Et l'Esprit de Dieu te convainc de pécher. Donc, il voulait mettre ceci en règle. Ça, c'est tout ce que les gens ont vu qu'il a dû mettre en règle. Mais laissez-moi vous dire ce que ça signifie que de vivre devant Dieu. Qui va en plus profond que ce que l'homme peut voir. Il avait un rêve ou une vision, je ne suis pas sûre ce que c'était. Et Dieu lui a montré beaucoup de cadavres. Et Dieu lui a dit, « Ça, ce sont les gens que toi, tu as tués. » Et il a dit, « Non, Dieu, ça, ce n'est pas la vérité. Je n'ai que tué un homme. » Dieu lui a dit, « Toi, tu as tué toutes ces personnes. » Tu les as tués avec ta langue. Tu as besoin d'aller et mettre ceci en règle et t'excuser auprès de ces gens. Dieu lui a donné le pardon. Oui, il a mis en règle devant les gens ce que les gens ont vu. Mais ami, si toi tu vis devant Dieu, il ira en profondeur, bien plus profond que ce que les gens voient. Il attend de ta part de marcher dans la vérité devant Dieu, que cela te rend populaire avec les gens ou cela fait qu'ils te haïssent. Obéis Dieu s'il t'a parlé aujourd'hui. s'il t'a convaincu de quelque chose, apporte-lui et reconnais-le et confesse-le. Afin qu'il puisse te laver plus blanc que la neige dans son sang. Où tu as besoin, s'il te dit et te convainc, va et remets-le en règle. Oh, remercie Dieu pour cet évangile. Cela ne te donne pas que la paix pendant que tu vis dans cette vie, dans ce monde. Et cela te donne de l'espoir, espoir éternel pour même après être mort un jour. Obéis Dieu. Souvenez-vous, il a dit que vous ne pouvez rien faire sans lui. N'essaye pas de faire ta cuisine. Obéis Dieu. Et appelle-le qu'il te donne les forces parce que tu ne peux pas le faire de tes propres forces. Ils nous ont demandé de répéter l'annonce qui était lue au début de la réunion parce qu'apparemment, cela n'a pas passé sur live stream. Donc, pour ceux qui l'ont entendu, ayez patience avec nous si nous lisons à nouveau cette annonce. Et si je l'ai lu au début de la réunion, j'ai remercié chacun du monde, en vérité du monde entier, qui ont envoyé des messages d'encouragement et leur soutien dans la prière pour nous. Que Dieu vous bénisse et cela signifie énormément pour nous. Ceci est notre annonce. Malgré que nous renions fortement les différentes accusations dans les médias contre la mission, je suis sûr que chacun est conscient de ces accusations parce que cela est visible partout. Donc nous allons contre ces communiqués, nous confirmons notre foi que notre Seigneur demande de nous séparer des ténèbres en marchant dans la lumière. Nous avons toutes des circonstances très difficiles et de notes très courtes. Nous avons choisi deux avocats expérimentés qui sont indépendants. Nous avons choisi donc ces deux avocats pour venir et faire des recherches et voir si c'est vrai ce que nous accusent d'eux. Donc on leur a demandé de faire ces enquêtes le plus rapidement possible. On leur a donné On leur a donné de nombreuses informations où ils reçoivent les informations nécessaires pour accomplir cette tâche. Si quelqu'un est intéressé de voir leur curriculum vitae, si vous pouvez envoyer un email à mail@ksb.org.za. mail@ksb.org.za. Ça, c'est si vous voulez voir ces avocats qui sont des avocats indépendants et que cela vous intéresse, qui ils sont et ce qu'ils font. Vos prières continuelles pour discernement et sagesse sont la bienvenue. Afin qu'en tout temps, nous marchions dans la lumière et répondons dans l'amour et dans la vérité, et ainsi reflétons notre Seigneur Jésus. Courbons nos têtes et prions. Notre Père céleste, nous te remercions d'avoir préparé le chemin pour nous afin d'obtenir le salut. Tel que nous écoutons ce message, nous réalisons ces derniers jours avant la crucifixion. Où il a payé le prix pour nos âmes. Nous avons vu comment les plans de l'enfer semblaient tomber et venir en place afin de détruire entièrement. Mais en quelques secondes, pour ainsi dire, comme il a appelé ses paroles, tout est accompli. Tu as transformé la victoire de Satan pour une victoire pour toi, pour l'éternité. Merci que nous pouvons entendre ta voix et te parler directement. Et comme notre Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta parole continue à rester et demeurer dans nos cœurs et que nous continuions à lire cette parole. Et tel que nous continuons sur nos chemins, s'il te plaît, ne te sépare pas de nous. Va avec chacun d'entre nous qui écoute ce message. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.